Chapitre 21. Justification. La condamnation de l'homme rendait sa justification nécessaire. La pensée qu'exprime la justification lors d'un jugement est qu'elle annule l'état de fait d'une accusation. La justification ne produit pas un acquittement par manque de preuves, mais elle signifie que l'accusé n'est aucunement coupable et que l'inculpation portée contre lui avait été levée. Alors, celui qui a été traduit en justice n'a commis aucun délit. Il s'est présenté uniquement à cause d'un accusateur, lequel n'avait rien pu faire parce qu'il ne pouvait rien prouver qui fût répréhensible contre lui. La plainte étant retirée, le procurateur a dû clore l'acte d'accusation parce que les poursuites avaient cessé. Les deux choses sont bien fondées. D'une part, l'homme s'est rendu coupable envers Dieu, et c'est pourquoi il a besoin de pardon. La justification dans la pensée divine constitue l'autre part. Dieu voit en Christ l'homme auquel il a pardonné les péchés comme s'il n'avait jamais péché. Un proverbe de ce monde dit « Pardonnez, oui, mais non oubliez ». Même si nous nous pardonnons les uns les autres de tout notre cœur, il arrive cependant que souvent nous nous rappelons ce qui s'est passé. Auprès de Dieu, c'est différent. Il a pardonné les péchés et ne s'en souvient plus. Personne n'a le droit de ressortir de la vie d'un homme les choses dont Dieu l'a justifié. Celui qui le fait est coupable et annule pour lui-même le pardon et la justification divine. Puisque l'homme était né dans cet état de péché, en dehors de sa propre volonté, Dieu a pris sur lui la juste condamnation qu'il avait dû prononcer dans sa justice au moyen de sa loi, et il a accompli lui-même une pleine justification des hommes par l'expiation réalisée dans le Fils. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Dans l'Épître à l'Église de Rome, l'apôtre Paul a abondamment enseigné la justification biblique, et il nous l'a montré telle qu'elle nous est accordée et que nous pouvons l'expérimenter. Il est écrit en rapport avec l'Évangile de Jésus-Christ, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et aux Juifs premièrement, et aux Grecs, car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, « Or le juste » vivra de foi. » Romains 1, 16, 17. Non seulement Dieu nous a sauvés de la mort et de la perdition, mais il a pleinement justifié l'homme et il lui a restitué sa justice divine. La justification de l'homme par ses propres œuvres qui proviennent de ses efforts personnels n'est plus nécessaire puisque la justice de Dieu lui a été accordée. La propre justice est sans valeur devant Dieu et elle peut être pour nous le plus grand obstacle. Il est écrit « C'est pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui par des œuvres de loi. » Romains 3, 20. Par l'action souveraine de Dieu, l'homme a été retiré de l'état de perdition auquel il était condamné. Et il a été ramené à sa position originelle devant Dieu. C'est là qu'est le point central de l'Évangile de Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas seulement pardonné, il nous a aussi justifiés et nous a même donné sa propre justice divine. La justice, dis-je, de Dieu par la foi en Jésus-Christ envers tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Romains 3, 22-24. Il ne reste ici aucune place pour une œuvre personnelle qui puisse conduire à une propre justification. Nous avons à donner au message divin, à l'évangile de Jésus-Christ, la place qui lui revient. C'est là, en fait, le message du salut qui libère et rend heureux et qui doit être claironné dans le monde entier. L'humanité a été réconciliée avec Dieu. Afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Romains 3, 26. Ce n'est pas la foi en un fondateur de religion ou en une confession qui produit cette justification divine, mais bien la foi en Jésus, en qui Dieu et l'homme se sont rencontrés et réconciliés. Des œuvres pieuses ne comptent pas, car nous concluons que l'homme est justifié par la foi sans œuvre de loi. Romains 3, 28. Manifestement, Paul avait été tellement saisi par la pensée de la justification qu'il a éclairé ce thème sous tous ses aspects. Du chapitre 3 au chapitre 8 des Romains, nous trouvons une introduction approfondie au plan de salut de Dieu. Chacun n'a besoin de prendre dans la foi que ce que Dieu a donné et de le remercier pour cela. Quiconque veut acquérir cette justice par ses propres œuvres ne pourra jamais reconnaître dans sa véritable et pleine signification l'œuvre parfaitement achevée de Dieu. Ce que l'on fait soi-même nous empêche de voir ce que Dieu a réellement fait. Mais à celui qui ne fait pas des œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée à justice. Romains 4, 5. Une leçon d'intérêt vital nous est donnée par l'exemple d'Abraham, à savoir que celui à qui Dieu a parlé et qui a reçu la parole de promesse ne regarde plus à lui-même ni aux circonstances qui l'environnent, mais il croit de tout son cœur ce que Dieu a dit. Bien que les choses promises ne soient pas encore présentes, il les voit déjà et en donne gloire à Dieu, vivant dans la certitude de la foi, c'est-à-dire dans une ferme conviction que Dieu réalise ce qu'il a promis. Dans Romains 5, 1, l'apôtre poursuit en disant « Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Il montre que, par la foi, nous avons accès à notre position de grâce actuelle, que nous pouvons nous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu, et cela même dans le besoin et les tribulations. Puis il revient à ce qui est le point central de la justification. Beaucoup plus tôt donc, ayant été maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui. Romains 5, 9. Il fait ressortir sans cesse de quoi il s'agit. Non d'une foi en n'importe quoi, mais bien de la foi en celui qui a été crucifié, Jésus-Christ, ainsi qu'en son saint et précieux sang, répandu pour notre rédemption pleinement accomplie. L'apôtre résume le tout par ces paroles. Ainsi donc, comme par une seule faute, les conséquences de cette faute furent envers tous les hommes en condamnation, ainsi aussi par une seule justice, les conséquences de cette justice furent envers tous les hommes en justification de vie. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été constitués pécheurs, ainsi aussi par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront constitués justes. Romains 5, 18, 19. Aussi certainement que nous constatons que le décret de condamnation a touché tous les hommes depuis Adam, ainsi devons-nous croire, d'autre part, que cette condamnation a été enlevée, que nous avons trouvé grâce auprès de Dieu et avons été pleinement justifiés. Au chapitre 6 des Romains, il nous est présenté de quelle manière nous avons été identifiés avec Christ à la ressemblance de sa mort, et comment nous avons été crucifiés avec lui, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui pour une vie nouvelle et divine. Romains 7 montre l'homme dans toute son incapacité. Il se voit trompé à cause du péché et ressent la dureté de la loi divine. Ce n'est que là où existe une loi qu'une transgression peut être commise. Si, au Sinaï, la loi n'avait pas été donnée avec tous ses commandements et interdictions, l'humanité n'aurait pas su ce qui était juste aux yeux de Dieu. Ainsi, le commandement a été donné afin que l'homme prenne conscience de sa transgression. En promulguant sa loi, le juste juge a prononcé la condamnation et, en venant comme sauveur, il a fait en sorte que viennent la grâce et la miséricorde. La miséricorde se glorifie vis-à-vis du jugement. Jacques 2, 13. L'homme devient conscient de son esclavage, de la réalité de ce qu'il est esclave, de ses habitudes, de ses passions, etc., au point que son âme s'écrie. Car ce que je fais, je ne le reconnais pas, car ce n'est pas ce que je veux que je fais, mais ce que je hais, je le pratique. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien. Car le vouloir est avec moi, mais accomplir le bien, cela je ne le trouve pas. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Romains 7, 15, 24. Tout homme, s'il se convertit au Seigneur, doit passer par ce processus intérieur sans lequel aucune conversion n'est possible. Après cela seulement vient ce qui est décrit au chapitre 8 et qui est l'expérience d'une réalité divine. L'homme justifié par la foi en Christ et en son œuvre de rédemption pleinement accomplie peut alors s'écrier « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. » Romains 8, 1. Ils ont trouvé la paix avec Dieu et sont entrés dans son repos. Satan, l'accusateur des frères, Apocalypse 12, 10. Et ceux qui se mettent à sa disposition élèvent toujours à nouveau de nouvelles accusations contre ceux qui sont devenus croyants et ont été justifiés. Paul prend aussi en considération cet état de fait lorsqu'il dit « Qui intentera accusation contre les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne ?» Romains 8, 33. La justification véritable ne se limite pas en vérité à un traité doctrinal. Il faut qu'elle devienne une expérience vécue. La justification est la seconde partie du pardon. Dieu devait condamner l'homme parce qu'il s'était rendu coupable. En vertu de la rédemption par le sang de l'agneau, la dette fut réglée. Une accusation nouvelle ne peut plus être élevée contre nous, même si Satan cherche sans cesse à le faire. Il essaya aussi cela auprès de Martin Luther, à qui la certitude de la foi avait été accordée, et en vertu de laquelle il s'écria « Le juste vivra par la foi ». La justification divine vient uniquement par la foi en la rédemption pleinement accomplie par Jésus-Christ. De même que l'homme se tourne vers Dieu par la conversion, qu'il fait l'expérience de la fin de sa vie propre et par la nouvelle naissance commence une vie divine nouvelle, ainsi en est-il du pardon qui est lié aux souffrances et à la mort de Jésus-Christ et de la justification qui est associée à la résurrection et à la vie de Dieu, lequel a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. Romains 4:15. Aussi certainement que Jésus est mort, tout aussi certainement le péché nous a-t-il été pardonné. Aussi certainement que Jésus est ressuscité, tout aussi certainement sommes-nous justifiés une fois pour toutes. L'apôtre Jacques montre comment la foi en la justification de Dieu telle qu'il l'a dite est rendue parfaite par une obéissance dans les œuvres conformes à la parole. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et l'Écriture a été accomplie qui dit « Et Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice, et il a été appelé ami de Dieu. » Jacques 2:22-23. Ce ne sont pas les œuvres par elles-mêmes qui justifient l'homme, mais elles sont seulement un élément de la justification reçue par la foi. Celui qui croit Dieu agit conformément à ce qu'il a demandé. Abraham croyait que Dieu allait ressusciter son fils Isaac d'entre les morts et il était prêt à offrir son fils en sacrifice comme il le lui avait demandé. Dans cette position de foi, l'obéissance ne lui paraissait pas difficile. Jacques ne se réfère pas aux œuvres que les hommes font arbitrairement en vue d'obtenir quelque chose de Dieu, mais bien à celles qui sont faites selon le commandement et la parole de Dieu. Celui qui croit réellement accomplit ce que Dieu a dit. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que moi je vous commande. Jean 15:14. C'est de cette manière que la foi respire et qu'elle est rendue vivante. L'homme justifié par la foi en Jésus-Christ se tient devant Dieu comme s'il n'avait jamais péché. Il a été placé à nouveau dans son état originel, comme il y avait été prédestiné dans l'éternité et attend uniquement encore la transmutation de son corps et l'achèvement. Celui qui croit réellement en donnera la preuve par sa vie et ses actions, c'est-à-dire comme Abraham le fit par sa joyeuse obéissance. Dans Hébreux 12, les rachetés nous sont présentés comme des justes accomplis. Mais vous êtes venus à la montagne de Sion et à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et à des myriades d'anges, l'assemblée universelle, et à l'assemblée des premiers-nés, écrits dans les cieux, et à Dieu, juge de tous, et aux esprits des justes consommés. Versets 22-23.